Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine enregistrée depuis le studio du Media Lab du WIP et diffusée, je le rappelle, sur Radio Pulse et sur la station B. Alors depuis quelques mois, on voit fleurir sur nos côtes normandes des dizaines et dizaines d'éoliennes, alors on a décidé de creuser le sujet, car en effet, ce nouveau paysage nous questionne. Comment est-ce que ça s'organise la mise en place de ces gigantesques parcs éoliens? Quel impact pour la biodiversité? On va essayer de répondre à ces questions aujourd'hui dans Bonjour Turbine. Alors vous vous en doutez, cette émission ne sera pas un long monologue, puisque Bonjour Turbine, c'est avant tout une équipe. Et donc avec moi, autour de la table, nous avons Alain.
Coucou, ça va Thomas?
Eh bien, très bien, et toi?
Nickel.
Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Beaucoup de choses, je crois.
Ouais, beaucoup de choses. Bah, déjà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un truc qui, depuis que c'est commencé sur la côte normande, je promène mon appareil photo me promène. Et donc, des découvertes. Donc, la photo dont on parlera dans Compteur Flâneur nous permettra d'en savoir un peu plus sur les chantiers qui sont en cours.
Génial. Et à ma droite, nous avons également David. Alors, mon cher David, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Alors, moi, je vous ai préparé un petit texte qui va parler de bateaux, de vent et de culottes.
Et je le rappelle, c'est une chronique humoristique, hein, voilà. Également à la technique, dans l'équipe, nous avons la meilleure du monde, Alixia.
Bonjour.
Ça va, petit enfant?
Oui, ça va.
T'as été sage?
Oh oui.
Merci beaucoup, Alixia. Et nous avons également un invité à qui je donnerai la parole incessamment sous peu. Mais avant ça, je préfère entendre le jingle spécial invité. Et oui, je le disais à l'instant, nous avons un invité avec nous autour de la table, Pascal Akbar, bonjour.
Bonjour.
Alors, le sujet, visiblement, vous touche beaucoup, c'est pour ça que vous êtes là, ici, aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez nous décrire un petit peu votre profession, qu'on comprenne un petit peu l'objet de votre venue aujourd'hui.
Eh bien, moi, je suis biologiste marin, je suis les côtes normandes depuis quelques années, donc tout ce qui est biologie, faune et flore, qualité de l'eau, qualité du sédiment... J'ai suivi pendant assez longtemps et depuis quelques temps, je travaille aussi pour suivre l'impact des éoliennes, l'état initial, l'état de l'environnement avant qu'on installe les éoliennes, pendant les travaux et puis bientôt, peut-être après, pendant leur exploitation.
C'est ça. Donc en fait, on vous consulte pour connaître un petit peu l'impact de toute cette nouvelle installation sur la côte normande, quoi.
Beaucoup de gens se proposent ou sont consultés. Je fais partie, comme d'autres, au sein d'une société, des gens qui peuvent examiner, étudier l'environnement à l'échelle du littoral. Donc j'ai un petit regard sur l'ensemble des parcs normands, mais comme d'autres scientifiques sont consultés à l'université et dans d'autres équipes aussi, ouais.
Eh bien justement, votre avis nous intéresse. Alors, en début d'émission, on va quand même plutôt parler des chantiers. Qu'est-ce que ça implique, ces chantiers? Comment est-ce que ça se construit une éolienne? Et on va notamment en parler avec Alain tout à l'heure. Mais peut-être, avant ça, je vais vous reposer une deuxième question. Autour de la table, soit vous, Pascal, soit les autres, comment est-ce que ça... L'énergie éolienne, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce que se produit cette énergie-là, en fait, tout simplement?
C'est des grands moulins à vent. C'est un grand poteau avec une turbine tout en haut pour simplifier, et puis trois hélices, trois pales, et le vent fait tourner. Ça fait comme une dynamo sur un vélo, la roue fait tourner une petite roue qui fait produit du courant. Et comme sur un vélo, quand le vélo roule, il y a produits de l'électricité, donc on a de la lumière. Et si on s'arrête, on devient invisible parce qu'il n'y a plus de lumière. Donc l'éolienne, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle produit du courant quand elle tourne, et ce courant, on doit l'utiliser, sinon on ne sait pas l'accumuler. Et donc, ce n'est qu'une énergie d'appoint. C'est de l'électricité qui ne peut pas être une source principale. Et donc, ça va être pour se rajouter à du thermique qui peut être nucléaire ou pas. Et il y a aussi le solaire, donc c'est un mix ça fait partie du mix énergétique qui permet d'avoir du courant pour notre pays. Alors, ce qu'il faut bien savoir dès le départ, moi j'ai eu un peu de mal à comprendre ça au début, c'est que quand on nous annonce que le parc éolien de Courseulles va couvrir 90% de la consommation domestique du Calvados, si ça se trouve, on en verra 0%. Par moment, ce seront les Espagnols qui utiliseront le courant qui viendra de Courseulles. Et nous, l'heure d'après, on aura peut-être du courant qui vient de Belgique ou d'Allemagne. Il y a une interconnexion de tous les pays, et en fonction des productions, par exemple, une centrale nucléaire, on a besoin de courant, on augmente la puissance. Une éolienne, on ne peut rien faire. Le vent, il fait tourner l'éolienne. Et donc, cette énergie-là, si à un moment donné, l'éolienne tourne et que nous, on n'a pas besoin de courant ici, comme on ne peut pas la garder pour nous, on l'envoie ailleurs. Et donc, cette interconnexion fait que, si ça se trouve, on aura très peu de courant produit chez nous par ces éoliennes. C'est ça qu'il faut bien voir. Par contre, ça fera l'équivalent de ce qu'on consomme. Donc, ce qui viendra d'ailleurs sera compensé. Enfin, ça fera une égalité par rapport à ce chiffre, quoi.
Ouais, on participe plutôt à un mouvement énergétique européen,
voilà, plutôt à notre échelle. On a l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne. Et il y a des sites sur Internet, si on va sur les sites de RTE par exemple, il y a des pages où on peut voir à certaines heures les flèches qui partent vers l'étranger, d'autres qui arrivent chez nous. Enfin, c'est assez intéressant, c'est très bien explicité et c'est vachement intéressant parce que ça permet vraiment de voir comment ça fonctionne.
Alors RTE qui c'est la distribution
d'électricité. C'est le transport de l'électricité.
D'accord, ok. C'était bien de le rappeler. Eh bien, merci encore. On reconnaît encore cette patte pédagogique à cet ancien instituteur à la retraite. Et justement, c'était bien que tu me donnes la main, Alain Flâneur-Conteur, puisque nous allons commencer à étudier un petit peu tous ces chantiers éoliens avec toi dès maintenant.
Alain Breton, photo flâneur, conteur. Une photo, une histoire, des histoires sur la Normandie ou les environs.
Alors, je rappelle un petit peu le principe de flâneur-conteur. Tu flânes dans le paysage normand, tu prends une photo et tu nous la racontes. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà nous décrire la photo que tu as choisie avant de la décortiquer ?
C'est une photo que j'ai prise à Bernières sur le chantier de RTE, justement, qui vont bientôt poser les câbles qui vont transporter le courant qui viendra de la plateforme des éoliennes jusque sur Terre et jusqu'à Ranville où ça sera dispatché. Et donc cette photo, elle est prise sur la plage. Et on voit, j'ai pris celle-là parce que on voit un petit peu tout. En une seule photo, on voit plusieurs éléments qui interviennent. On a une pelleteuse qui est au milieu. Là, on voit que celle-là, mais il y en avait plusieurs qui est surélevée, c'est-à-dire qu'au-dessus des chenilles, il y a une espèce de grand cylindre qui fait que la pelleteuse doit se retrouver à environ 3-4 mètres au-dessus.
Au-dessus de l'eau.
Au-dessus de l'eau. Et donc, la pelleteuse, elle part. Quand la marée commence à descendre, ils partent et ils se retrouvent avec quasiment tout le dessous qui est dans l'eau. Et elle était là pour creuser une tranchée qui partait de la plage. Donc, ça a commencé directement sur la plage. Au fur et à mesure qu'ils finissent, ils rebouchent, ils vont remettre en état tout ce qui a été fait. Et donc, une tranchée qui va faire 700 mètres de long. Et qui, dans cette tranchée, ils mettent une gaine, donc qui fait ses 700 mètres aussi, qui est placée par tronçon de 72 mètres, on en met trois à chaque fois. Et dans ces gaines, dans ces tuyaux, il y aura les fils qui transportent le courant, qui seront placés. Et une fois que les tronçons sont montés sur la plage, au-dessus de la tranchée, ils sont enfouis dans la tranchée et par-dessus, avant de remettre les remblais qui ont été enlevés par la pelleteuse, ils mettent une espèce de U en béton à l'envers, bien sûr, qui se pose dessus. Et je les ai vus poser, c'était impressionnant, parce que ces fameux U, ils font 3 tonnes. Le gars dans la pelleteuse, il ne voit pas la tranchée.
Il ne voit pas ce qui se passe.
Il ne voit pas ce qui se passe. Et il y a un mec qui est dans l'eau avec une combinaison, qui a de l'eau jusque mi-poitrine, et qui le guide.
Ok, pour donc pas il est en toki en direct.
Voilà, pour pas pincer le tuyau. Sauf que lui, il est à 50 cm dans l'eau des 3 tonnes. Quoi. Donc c'est hallucinant de voir la dextérité qu'ils ont. Et ça va très vite, hein, parce qu'ils en ont 700 mètres, enfin, 210 mètres à poser. Donc c'est des trucs qui doivent faire un mètre et quelques, donc t'imagines...
Justement, est-ce qu'on aimerait avoir un peu le paysage va changer sur la côte ? Il y a plusieurs chantiers en cours.
Alors, tout ce qui est sur de la plage jusque toute la partie où on va immerger cette gaine, les 700 mètres, là, ça va normalement, ça doit retrouver l'état d'avant. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés à ce que les travaux soient complètement cachés. Dans la mesure où il y avait une zone, le Platon, juste à la sortie de Courseul, qui est une zone protégée, ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Et puis, que c'est une zone où les gens vont se baigner, aller à la pêche. Donc, il y avait la cale pour descendre les bateaux qui a été détruite. Une fois qu'ils vont avoir fini, ils vont remettre la cale. En fait, les fils, on ne va rien voir du tout. Les fils vont être en souterrain, sous l'eau, dans le sol, sous l'eau, de la plateforme des éoliennes jusqu'au bord, où là, c'est branché à des fils qui sont sous la terre et sur 25 km jusqu'à Ranville. Ils ont presque fini d'amener les fils. Là, c'est les fils qui ont été posés. Alors, c'est des prouesses techniques et puis des fois des interrogations. On se pose, on dit les bobines, c'est pas très long. Alors, elles sont géantes, elles font 3 mètres de haut. Et puis là, vous interrogez le gars, puis il vous dit mais ça pèse 40 tonnes. Ah ouais, ouais. Donc, et ça fait 1,3 km, parce que vous avez un fil qui doit faire à peu près 20 cm de section au moins.
Donc des bobines de 1,3 km, quoi.
1,3 km, parce que plus ça serait trop lourd, et il faudrait des bobines gigantesques et personne pourrait transporter ça. Vous imaginez, tu passes un pont, tu passes sur les routes, la taille des trucs, ça c'est complètement fou.
On a combien de mètres entre la plage et là où sont postées les éoliennes ?
Il y aura. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une quinzaine de kilomètres. Elles vont être placées dans l'eau. Les éoliennes, elles sont à 19 km de Ouistreham, 10 km de Courseul, 12 km d'Arromanche et 18 km de Port-en-Bessin. Donc ça va être une zone qui est assez impressionnante, qui fait 45 km carrés. Alors 45 km carrés,
qu'est-ce que ça représente ?
Ça représente, ça représente 505 stades de France.
Okay.
Quand je dis le stade, c'est l'esplanade, le stade, pas que la pelouse. Hein. 500 stades, 505 stades de France.
Ça doit te parler, David, toi qui es un féru de football.
Ou si vous préférez, ça fait un peu moins de deux fois la superficie de la ville de Caen.
Ok, ouais, donc c'est quand même...
quand même quelque chose de...
Et ça représente combien d'éoliennes en tout
Il va y avoir 64 éoliennes, si je ne me trompe pas. En ce moment, il y a trois parcs qui sont en construction en Normandie. Un au large de Fécamp, un au large du Tréport Dieppe. Et l'autre à Courseul, où la maintenance sera à Ouistreham. Là aussi, il y a des travaux. Donc, ce qui est fou, c'est qu'il y a des travaux qui ont commencé à Bernières, mais avant, ça avait commencé à Ouistreham, où ils avaient déjà gagné presque 4 hectares sur la mer, du côté vers la pointe du siège, dans la baie. Là. Ils ont mis des énormes rochers, ensuite, ils ont mis du remblai. Ils ont compensé cette zone-là par une zone qui est un petit peu sur la route entre l'Orne et le canal. Et puis, ils ont attendu que tout ça se tasse. Et là, maintenant, ils ont commencé à construire dessus la base de maintenance. Ils ont détruit tous les pontons qu'il y avait en bois qui étaient en face de l'autre côté du ferry. Et ils sont en train de mettre tous les poteaux qui vont servir à faire les quais pour la maintenance, parce que c'est le seul port qui reste en eau tout le temps à proximité. Quoi.
Ouais, donc ça change vraiment le paysage.
Ah bah ça va changer le paysage. Ouais. Ensuite, sur la photo, tu vois aussi un bateau. Alors là, c'est un navire qui pose aussi des câbles qui peut creuser au fond de l'eau. Et celui-là, c'est un petit bateau par rapport à celui qui va arriver, je crois que c'est la semaine prochaine, qui va déposer le câble sous-marin qui ira de la plateforme jusqu'à Bernières.
Ok, et ça creuse vraiment profond.
Ah oui, ça va au fond de l'eau. C'est des bateaux qui sont un peu comme des barges, c'est-à-dire qu'ils ont des pieds qui descendent dans l'eau, ils se posent sur le fond. Et ce qui fait qu'en fonction des marées, tu vois le bateau soit qui touche l'eau, soit qui est au-dessus de l'eau. Ils ont des pelleteuses, des machins avec des trucs géants. Et puis, ils creusent, ils posent. Ils ont des câbles qui sont enroulés sur une espèce de... Enfin, comme les câbles qu'on voit à terre, et qui déposent le câble comme ça. Et une fois que ça sera terminé, pour RTE, ça sera fini. Une fois qu'ils auront fait de la plateforme jusqu'à Ranville, eux qui font le transport de l'électricité, ça sera fini. Ensuite, ils commenceront la construction du parc éolien en lui-même, c'est-à-dire que chaque éolienne, ils viendront poser dans le fond de la mer des pieux sur lesquels seront fixés les mâts des éoliennes. Et de chaque éolienne, il y aura un câble qui viendra jusqu'à la plateforme. Et là, tout le courant arrivera avec leur système de transport. Et il y aura deux câbles qui vont partir et qui chacun feront 215 000 volts, donc 430 000 volts, et qui vont en souterrain jusqu'à Ranville, y compris en souterrain, il fallait passer l'Orne et le canal. Ça passe 30 mètres en dessous. Ils ont creusé 30 mètres en dessous. Donc tout le chemin qu'ils ont choisi pour faire de Bernières jusqu'à Ranville, c'est soit le long de la route, il y a le long de la route de Coursolles, par exemple. Donc on a été impacté pendant quelques temps où la circulation était alternée parce qu'il y avait des engins et tout ça. Ça passe près de la station d'épuration. Donc ils ont utilisé là le bord de route, les chemins entre les champs pour impacter le moins possible les...
Ils tirent pas tout droit les fils, quoi.
C'est, non, c'est ils tirent pas ça. Tout droit les fils. Ouais. Ils font le plus droit possible, mais en utilisant un circuit qui ne gâche, enfin qui fait pas n'importe quoi. Alors il y a de belles histoires quand même. Il y avait un monsieur dans la région de pas loin de Biéville-Beuville qui avait un paysan qui avait sa terre, qui s'était énormément appauvri. Et il y a un gars qui s'est aperçu que ça serait intelligent plutôt que de prendre de la terre et tous les remblais les emmener à 30 km avec des camions, des norias de camions. Que le monsieur il avait besoin de terre, et que cette terre qu'on excavait, elle était très très bonne. Et ben, il a monté une start-up et la terre, plutôt que d'aller dans une carrière à 30 km, et ben, elle a été répartie sur les champs du monsieur. Et donc, ils vont étudier progressivement si la terre, si elle s'appauvrit, etc. Donc, voilà, on a des...
Il y a un peu de bon sens quand même
un
derrière.
Peu de bon sens, voilà. Après, il ne faut pas oublier que les communicants, ce sont les industriels. Donc,
voilà, n'hésite pas à réagir, Pascal, parce que tu es ici, toi aussi, dans le...
Tout à fait, mais j'ai que des choses très, très intéressantes qui sont dites et très vraies pour l'instant. Très bien.
Il y a aussi un monsieur une association qui défend les gravelots qui ont la mauvaise idée.
Sur les petits oiseaux.
Les petits oiseaux, mais qui ont la mauvaise idée de faire ça sur la plage. Et donc, qui sont à la merci des sauvages qui jouent avec des ballons, des choses comme ça. Et donc, on a beau mettre des petits panneaux ou des petits bouts de grillage, des machins, c'est pas... Eh bien, ils ont, comme ils n'avaient pas de moyens, bah, c'est RTE qui leur a fait des beaux panneaux pour les mettre pour... voilà. Alors, c'est de la com, enfin, on est bien d'accord, mais c'est de la com qui sert aussi une cause sympa. Donc, voilà, c'est...
Il n'y a pas un désintérêt total. Pardon, tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais juste rappeler que dans le cas des gravelots, il y a des plans nationaux, régionaux qu'on essaie de développer depuis un certain temps pour les protéger et qu'effectivement, c'est l'argent et la volonté qui manquent. Donc, dans ce cas-là, peut-être que le gravelot collier interrompu, nicheur, va pouvoir profiter de l'arrivée des éoliennes bah plus que si elles n'étaient pas venues.
Donc, finalement, il y a peut-être quelques externalités positives à cette construction, ce gros
peut-être,
chantier.
Oui.
Alors, pour finir, bah, parce que le mieux, c'est que d'aller se promener sur la plage du côté de Coursolles ou de Bernières, d'aller à Ouistreham, de voir les travaux. Et, alors, il y a des endroits où on ne peut pas aller, mais on peut s'approcher quand même à certains endroits et observer. Et moi, ce qui m'a le plus... Il y a deux choses qui m'ont frappé. Un, c'est les engins techniques qu'ils utilisent et la dextérité de ceux qui les manipulent. Quand tu vois un mec qui est avec une grue qui a une énorme un palan qui vient se poser sur un tube qu'on va enfoncer dans le sol et que le truc, tu as l'impression que toi, tu ferais ça avec tes doigts. Le mec, il fait ça avec une grue qui a une flèche qui fait, je sais pas, 25 mètres de haut. Il vient se poser dessus, clac, et ça... Mais comme toi, je dis, tu mettrais ta cigarette dans le trou du cendrier. Lui, il vient poser le truc dessus et paf, ça s'enfonce progressivement. C'est hallucinant. À la fois le matériel qu'ils utilisent. Alors pour la photo, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien. Ça donne des photos de ouf. Comme en plus, il y a des oiseaux qui passent, machin. Tu as la technologie, la nature. Enfin, sur un plan esthétique, je ne parle pas sur un plan environnemental. Et puis, la deuxième chose qui m'a complètement sidéré, c'est la coordination. C'est-à-dire que tu as un truc qui a commencé, ça a d'abord été des études d'impact, d'avoir un choix de politique et industriel. Ensuite, des études d'impact, des choix, là, on va le faire, on ne le fait pas. Et puis, à un moment donné, il y a des mecs à qui on dit, on est en 2018, en 2024, on veut le courant, et vous nous construisez un parc éolien et machin. Et tu t'aperçois que on est en retard d'une semaine, on a eu du mauvais temps sur une période très longue comme ça. Il y a des choses qui se passent, qui s'enclenchent les unes avec les autres. Donc là, ça y est, ils ont commencé le montage des éoliennes au Havre, ce qui représente sur le parc éolien environ 1000 emplois, ce qui est quand même pas mal. Éoliennes européennes, Siemens Gamesa.
J'ai cru voir ça dans un article, 95% de ce qui est produit, c'est Siemens, hein, je crois.
Oui, c'est ça. Alors après, et Pascal pourra nous préciser des choses, leur communication dit qu'ils seront recyclables dans 25 ans à 98 et quelques pourcents. Les matériaux, enfin, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des choses qui... D'abord, le temps là, nous dira s'ils ne sont pas trompés, même s'ils n'ont pas la volonté de tromper les gens, mais il y a des fois, on se trompe parce qu'il y a des phénomènes qui font que. Mais c'est que pour la première fois, ce genre de choses, tu construis, tu sais déjà ton plan de destruction et de recyclage.
Donc là, l'enjeu, c'est l'anticipation, autant dans la construction.
Là, vraiment, c'est ce qui m'a frappé, moi, c'est ça, c'était cette anticipation et cette maestria technologique. Moi, je suis un peu sidéré et c'est un peu l'œil du photographe. Là, c'est vraiment, enfin, du photoflâneur, c'est vraiment génial, quoi.
Ok. Bah, en tout cas, c'était bien qu'on puisse un petit peu resituer le chantier, comment ça s'organise, avant justement d'évoquer avec Pascal juste après l'impact environnemental que ça implique. Mais avant ça, je vous propose de faire une petite pause musicale qui, comme à son habitude, nous a été préparée par Pierre. Alors, il n'est pas présent avec nous ce soir. Il a bossé depuis son appartement dans des conditions particulières pour lui parce qu'il est malade, pauvre petit chou. Pierre nous propose une pause musicale en abordant les instruments avant, pour coller avec le sujet évidemment, suivi d'une chanson. Et la chanson, c'est quoi? C'est Gaëtan Roussel, Les Éoliennes. Allez, c'est parti, on s'écoute ça.
C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre.
Trop bien. Ouais. Il y a un panel bien large de chansons qui nous parlent du vent. On en connaît au moins tous une. Et en plus, ce matin, à Colombelle, le vent souffle sur la plaine du passe-plateau de Colombelle. Non, je m'arrête là. Bon, je vais pas continuer parce que je ne sais pas du tout rapper et je pense que ça s'est vu. Mais le vent est une source énorme d'inspiration pour beaucoup de chanteurs, puisque l'on peut avoir un vent frais, un vent du matin, un vent qui souffle au sommet des grands pins. Bon, j'arrête vraiment. Mais aussi on peut avoir des tempêtes, des typhons, des ouragans. Bref, le vent est un élément indomptable. Et niveau instruments de musique, il y a un large choix avec les instruments à vent. Grande famille dont le son est produit par le souffle des musiciens mettant en vibration des anches simples, doubles ou encore leurs propres lèvres, amplifiées par une embouchure. Ils sont divisés en deux sous-familles, les bois et les cuivres. Une caractéristique importante des instruments à vent est la forme interne du tube, appelée la perce, qui détermine, enfin le timbre de chaque instrument. La perce est soit cylindrique, soit conique, ou plus rarement un mélange des deux. Et quand on parle d'instruments à vent, si je peux vous faire découvrir quelque chose, j'ai directement pensé à une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube quand j'étais très jeune, donc petit. C'est une vidéo qui date du 18 décembre 2008, c'est tourné dans les locaux de Google à Londres, et le mec s'appelle Nathan Flutebox Lee. Et il fait du beatbox avec une flûte traversière qui est un instrument à vent. Je vous laisse écouter ça. technique vraiment peu connue, cette alliance entre la flûte traversière et le beatbox qui est, je trouve, assez sympathique. Mais revenons à notre thème principal qui est les éoliennes. On parle d'éoliennes aujourd'hui. Et du coup, notre cher Gaëtan Roussel, qui est un artiste que beaucoup d'entre vous connaissent, a sorti un titre le 21 juin 2013 qui s'appelle Éolienne. On s'écoute ça tout de suite.
Drapeau de plage coloré, Mistral chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets de coques, les jolies gambettes de fer forgé, des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader.
On vient de s'écouter Éolienne de Gaëtan Roussel. Vous êtes bien sur Bonjour Turbine. Il fait du vent dehors et c'est normal puisque cet interlude musical n'a pas été choisi par hasard. Aujourd'hui, on parle d'éolienne. On a expliqué, on a essayé d'explorer un petit peu le sujet de tous ces chantiers éoliens qui sont en train de se monter sur la côte normande en début d'émission avec Alain. Et là, nous avons un expert avec nous, Pascal Akbar, justement, qui suit ces chantiers. Quelle est la posture un petit peu ? On te consulte. Et derrière, tu donnes des recommandations pour des manières de travailler, c'est ça ?
En fait, il y a des réglementations principalement européennes, mais aussi nationales. Donc, pour certains chantiers, au début, quand on choisit la zone, c'est l'État qui va choisir, qui va lancer un appel d'offres pour choisir qui va pouvoir répondre, qui va pouvoir faire les études pour savoir quels sont les enjeux associés à ces secteurs-là. Et en général, quand on est en Normandie... il y a des experts locaux, il y a plein de gens en Normandie qui savent bien étudier le littoral. Donc, ils peuvent aussi répondre tous ensemble. On peut tous répondre à ces questions-là. Dans un deuxième temps, il y a aussi un appel d'offres pour choisir qui va exploiter le site, qui va installer les éoliennes. Et donc, c'est ce groupement-là qui va être en charge de faire le suivi environnemental. Donc avant, on fait une étude initiale, dans l'état initial de l'environnement. Et puis, le lauréat, celui qui va exploiter le chantier, va faire un état de référence, une étude pendant les travaux et une étude pendant la phase d'exploitation. Et normalement, on n'a pas encore l'expérience, mais il y aura une étude à la fin pour voir, être sûr qu'il rend le milieu dans l'état dans lequel il l'a trouvé.
Donc avant, pendant et après. Alors aujourd'hui, comment ça se profile sur les chantiers qu'on a évoqués avec Alain ? Quels sont les risques justement d'immenses, de gigantesques chantiers comme ceux dont on a parlé tout à l'heure ?
Alors en termes de chantier en lui-même, on parle beaucoup du bruit. Alors il y a deux grands compartiments qui vont être, deux grands domaines qui vont être très bien pris en compte. Ça va être tout le sédiment qu'on va remobiliser qui est au fond de l'eau, qui va être remis dans la colonne d'eau avec les travaux, donc repris par le courant, transporté ailleurs. Il peut y avoir plein de choses dans ce sédiment, notamment des polluants, des contaminants, des bactéries, mais il y a aussi des algues, il y a aussi plein d'animaux. Et ça peut être transporté vers des zones où, par exemple, pourquoi pas, on a de la conchyliculture ou des coquillages qu'on va pêcher. Donc, c'est intéressant de savoir quelle va être en fait la nature du sédiment qui va être mobilisé. Et puis, le gros enjeu, c'est le bruit des travaux, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Alain du fait d'enfoncer des pieux dans le sédiment, dans le fond. Et donc, ça fait des bruits comme des énormes bruits de marteau. Pour résumer, et donc c'est des bruits qui sont transportés très vite et très loin sous l'eau et qui sont très dangereux quand ils sont en certaines fréquences pour la plupart des mammifères marins, donc tous ne sont pas sensibles à la même gamme de bruits, donc c'est à prendre en compte aussi, et qui vont aussi faire fuir les poissons et puis les autres crustacés, voire soit les faire fuir, soit les blesser. En fonction de la distance, ça peut jouer. Donc, pendant les travaux, en général, il y a beaucoup de mesures prises pour vérifier soit que les mammifères marins ne sont pas présents, sinon on arrête les travaux et on attend qu'ils partent, soit que le bruit ne diffuse pas. Alors, on peut mettre des rideaux de bulles autour des travaux, ce qui fait que l'air, va, sous forme de petites bulles, va arrêter la diffusion du bruit, la casser. On peut en mettre un ou deux, ça peut être fait beaucoup en milieu portuaire, ça c'est des pratiques qui sont assez courantes. Ça a été fait aussi dans des parcs dans le Nord. Donc le bruit, c'est un des paramètres qu'on essaie de suivre mieux. On peut, actuellement sur le parc de Coursol, oui, il y a eu du suivi en temps réel du bruit et avec de la détection en temps réel des mammifères marins pour être sûr qu'il n'y en avait pas de présents dans les zones dangereuses, dans lesquelles ils sont en danger en tout cas pour eux. Donc les techniques, elles changent. Chaque laboratoire, chaque équipe va pouvoir proposer... C'est plus ou moins, mais ça, c'est les deux grands compartiments pendant le chantier qu'on va prendre en compte. Ouais.
Ok, parce qu'il y a le bruit, mais comment est-ce qu'il y a aussi les installations, les structures qui seront présentes.
Ouais.
Comment est-ce qu'on arrive à anticiper justement c'est un nouvel écosystème, ça ne doit pas être si simple que ça.
Et non, ce n'est pas simple du tout. Effectivement, il y a plein de techniques différentes. On peut avoir un tube, on peut avoir des grandes embases en béton comme on a dans le port du Havre. Qui sont très hautes, très grandes, qui vont constituer des énormes récifs. Donc on a pu voir sur d'autres parcs, un peu partout ailleurs, que ça peut constituer des récifs au fond de l'eau, sur lesquels vont s'installer d'abord des petits organismes qui vont devenir plus grands, puis attirer d'autres organismes et créer des zones dans lesquelles on va trouver des petits poissons, des petits crustacés qui vont attirer des plus grands. Et donc, c'est la notion d'écosystème que tu abordais, que tu citais il y a quelques instants. Recréer un petit monde à l'endroit où il y avait du sable. Là, on a un récif, donc d'autres espèces vont s'installer et pouvoir d'autres espèces se développer. Un autre écosystème peut s'installer comme ça. Donc ça, c'est possible, c'est à vérifier. C'est pas forcément la norme, c'est pas forcément ce qu'on va voir. Et de la même façon, le milieu en Manche, comme ailleurs, il n'est pas stable. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas encore cité tout ce qui est changement climatique, élévation du niveau de la mer, changement du rythme des tempêtes. On a vu que la pointe du Hoc s'était écroulée il n'y a pas très longtemps. On voit que la côte est en érosion aussi. Donc la mer change aussi, le littoral change. Donc ces éoliennes, elles sont au sein d'un milieu qui change déjà beaucoup, qui n'est pas stable, qui vit au rythme des marées, au rythme des saisons. Et puis au rythme des tempêtes aussi qui peuvent intervenir et tout modifier. Une tempête, ça peut remettre du sédiment en suspension, ça peut faire beaucoup de choses, ça peut éroder la côte, ça peut tout remodifier aussi. Donc ces éoliennes, elles s'installent, elles sont des points fixes au milieu d'un système qui change en permanence et qui aujourd'hui, qui est un gros souci aujourd'hui, le changement climatique, comment on s'adapte sur le littoral. Voilà. Donc elles font partie d'une problématique plus générale.
Alors Alain, je crois que tu avais une question à poser.
Là tout de suite, tu nous parlais de sous l'eau, l'eau est sous l'eau.
Ouais.
Les éoliennes, celles de Coursol, je crois que c'est à peu près 165, la pale sera 165 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a beaucoup d'oiseaux. Est-ce que vous étudiez aussi l'impact sur les oiseaux?
Tout à fait, tout à fait. Donc on parlait tout à l'heure des gravelots à collier interrompus, qui sont, j'ai pas cité le groupe ornithologique normand qui les protège, qui est très actif. Pour les oiseaux, effectivement, la problématique des oiseaux tués par les éoliennes, elle est très importante. Alors pourquoi tout à l'heure je parlais des mammifères marins, maintenant je parle des oiseaux? Deux grands ensembles d'animaux qui sont inscrits dans plein de lois de protection, de réglementation. C'est les plus protégés. Donc effectivement, c'est sur ces deux groupes-là qu'on va avoir le plus de mesures de protection, le plus de suivi. Si demain, je vous dis qu'il y a des invertébrés au fond de l'eau qui vont disparaître, il n'y a pas de loi contre ça. Après, on va prendre des mesures. Si c'est des coquillages qui sont pêchés, si c'est la coquille Saint-Jacques, je pense qu'en Manche, on va en entendre parler. Et ça va tous nous impacter. Mais pour les oiseaux, effectivement, c'est un gros sujet. Et donc, si ces éoliennes sont sur des routes de migration, sont sur des routes de passage, les fous de bassin qui vont nicher à Origny, par exemple, viennent se nourrir dans la baie de Seine. Donc, s'il y a des éoliennes sur leur route, quel va être leur comportement? Est-ce qu'ils volent au-dessus ou en dessous de ces altitudes-là? Ce sont des choses qu'on suit. Quand on observe les oiseaux, on regarde aujourd'hui quelle est leur attitude de vol, leur altitude de vol, pardon, quelle est leur direction, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. On parle en écologie de fonctionnalité. En fait, la zone, on cherche à savoir quelle est sa fonction pour ces espèces-là. Est-ce qu'ils viennent juste passer? Est-ce qu'ils viennent se reproduire? Est-ce qu'ils viennent se nourrir? Qu'est-ce qu'ils font sur place, en fait? Puisque je parle beaucoup de l'eau, parce qu'en fait, l'eau, elle bouge beaucoup. Et par exemple, des poissons qui vont se reproduire à un endroit, les œufs vont être déposés dans l'eau à un endroit, ils vont peut-être se déplacer dans l'eau s'ils ne sont pas fixés, donner des larves qui vont se déplacer. Et finalement, les adultes et les jeunes ne vont pas être au même endroit. Donc, même si on n'a pas un poisson pêché sur ce secteur-là, peut-être que ce secteur-là est important pour la reproduction ou l'abri de jeunes. Donc, tout est connecté. Si les oiseaux sont là, c'est peut-être pour manger certains poissons. Si les poissons sont chassés, est-ce que les oiseaux seront toujours intéressés? Voilà, tout est connecté, en fait. Donc, les oiseaux, les poissons, la mer, tout est lié. Et tout bouge en permanence. C'est pour ça que j'en parlais beaucoup. Mais la grosse question pour les oiseaux, effectivement, c'est et quelle est, sur quelle voie de migration on se trouve, combien sont exposés aux éoliennes. Et on se pose aussi la question, alors ça c'est moins connu, mais pour les chauves-souris qui peuvent transiter par exemple entre la France et l'Angleterre. Donc on les suit avec des radars, comme pour les oiseaux, pour savoir à quel moment ils passent, de jour, de nuit, à quelle altitude, est-ce qu'ils sont regroupés, est-ce qu'ils sont étendus c'est des choses qui sont suivies, qui sont prises en compte aujourd'hui dans les suivis.
Et alors, là, on comprend que c'est l'observation aussi, la recherche, les études sur les comportements de cette biodiversité qui vous permettent d'anticiper aussi les réactions. Quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place justement pour atténuer l'impact humain justement?
Alors, les mesures. Alors, on parle de mesures ERC dans la loi, donc pour éviter, réduire et compenser ces impacts. Ils sont très variables. Je parlais du rideau de bulle tout à l'heure. Ça, c'est une mesure pour éviter que le bruit impacte les mammifères marins ou les poissons. Le suivi en temps réel des travaux pour arrêter les travaux. Voilà, c'est encore une mesure d'évitement. On peut avoir le rideau de bulle, il peut réduire le bruit qui sera. Donc, on peut l'éviter. On peut décider de ne pas forer à un endroit puisqu'il y a certaines espèces. Donc, on évite la zone où il y a des enjeux. On peut réduire donc en limitant l'impact et on peut compenser en disant de toute façon une perte. Donc, on va créer un habitat, un milieu qui va être favorable à l'espèce ailleurs ou voilà, ça a pu être fait. par, je crois, le port du Havre, qui a créé un îlot dans la baie de Seine, l'îlot du Ratier, pour compenser la perte de certains habitats avec les aménagements qu'il a créés. Donc ça, c'est en Normandie quelques exemples de choses qui peuvent être produites. Mais à chaque fois, c'est un cas bien particulier. Alors, je parlais de fonctionnalité. Est-ce qu'on va perdre une zone de reproduction, une zone d'alimentation, une zone de nourricerie, une zone de transit? On ne mettra pas en place les mêmes mesures pour faciliter, pour que cette fonctionnalité puisse être maintenue en fonction de l'espèce. Donc ça, il y a toute une gamme, et on va probablement pouvoir en inventer d'autres encore en fonction du milieu, en fonction de l'espèce ciblée, en fonction du groupe. Ça, c'est très variable, mais il y a déjà une gamme très étendue.
Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, tu parlais, alors là, ce n'est pas des animaux ni des oiseaux, des animaux marins, mais des structures en elles-mêmes, du vernis, des choses comme ça, dont vous ne savez pas quel effet ils vont, vu le milieu, le vent, la pluie, le froid, les différences de température, qui pourraient avoir un impact sur justement la
Tout
faune.
Tout à fait, c'est un peu le même principe qu'avec les peintures anti-biofouling sur les bateaux, en fait. Le revêtement, la nature même du matériau. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, dans les cahiers des charges qu'on nous donne, dans les molécules qu'on va devoir suivre dans l'eau. Aujourd'hui, il y en a énormément, et il y aura probablement des nouvelles qu'on ne connaît pas encore, en fait. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui est très... alors, pas forcément compliqué à suivre, parce qu'on sait le faire, mais la liste, elle est très longue de molécules. Et on a eu des demandes donc je ne sais pas si vous avez suivi la dernière réunion à Cherbourg pour la concertation, mais il y a eu des demandes exprimées pour suivre, par exemple, la possibilité qu'il y ait du bisphénol dans l'eau qui vienne de l'usure des pales des éoliennes. Donc ça, c'est une question qui a été exprimée en débat public récemment. Donc, il y a une réflexion en cours pour savoir comment ça va être suivi. Donc, je dis, c'est peut-être pas moi qui vais suivre. Il y a d'autres laboratoires, mais c'est des questions effectivement en cours. C'est des questions assez compliquées, puisque aujourd'hui, sur certains parcs, les éoliennes ne sont pas installées. C'est compliqué de savoir en quoi elles vont être faites, finalement. Ouais. Et donc, c'est des questions qui vont se construire, les réponses en tout cas, ou les moyens d'y répondre se construisent au fur et à mesure de la connaissance qu'on acquiert de la position de l'éolienne, sa taille, sa nature, sa structure.
Et on sait qu'il y a énormément d'enjeux financiers. Est-ce que vous faites le poids face à ces personnes qui gèrent tous ces gros chantiers? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que vous avez des leviers pour justement bloquer des chantiers, justement, ou...
des chantiers peuvent être arrêtés, effectivement, ou bloqués pour violation de loi européenne. En tout cas, les enjeux sont maintenant assez forts. Et je crois que la loi s'est aussi bien renforcée de ce côté-là. Enfin, peut-être pas assez. Maintenant, financièrement, non, on ne fait pas le poids. Les études environnementales par rapport au budget total d'un parc éolien, c'est rien du tout. C'est vraiment marginal. Elle dure longtemps. Donc, je dirais que non. Pour l'instant, mais on fait ce qu'on peut.
Déjà, c'est bien, vous êtes consulté, il faut y croire. Alors, je ne sais pas si David ou Alain, vous avez d'autres questions à poser à Pascal.
Moi, j'en aurais des tonnes, mais l'émission ne sera pas suffisante. Je pense qu'il faudra qu'on refasse sur les énergies renouvelables.
Je pense que de toute façon, on réexplorera le sujet. Alors, visiblement, Alixia nous envoie des messages subliminaux, nous envoyant de la musique.
J'étais très pressée, là. Là, j'étais à fond les ballons.
Ça vient pas de sous l'eau, ça?
De quoi? De sous l'eau?
De sous l'eau, ouais. C'est peut-être le sédiment qui...
Ça doit être ça, il remonte à la surface, voilà. Beaucoup trop vite, à notre goût.
En fait, c'était bien vu. Bravo.
C'était cohérent avec le thème de l'émission. Eh bien, écoute, on va t'écouter, alors, dans ce cas, Alixia. On va se faire une petite pause musicale d'1 minute 50. Et c'était Georges Brassens, Le Pont des Arts. Vous l'avez reconnu. On se l'écoute.
Par hasard. Sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent et les gens probent, mais disent du vent furibond, qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutrent et les gens probent, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice, comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts,
Tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau.
Et on vient de s'écouter Georges Brassens, Le Pont des Arts. Visiblement, cette musique a énormément plu à David, qui était à deux doigts de monter sur sa chaise. Alors, je vous propose de continuer avec Raphaël, qui lui non plus n'est pas là, mais nous a préparé quelque chose. Comme à son habitude, il ratisse l'actualité normande. On va parler de permaculture, de réseau ferroviaire, d'énergie éolienne, tiens donc, de circuits courts à la cantine et d'une création sonore portant sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ça, c'est ça.
Comme chaque mois désormais dans Bonjour Turbine, les clés de lecture s'emparent de la newsletter Petit Format, éditée par notre média partenaire Grand Format. Je vous propose ainsi en quelques minutes un condensé de quelques actualités normandes à côté desquelles vous êtes peut-être passé.
Il y a une dérogation préfectorale qui a été obtenue par un couple installé en Normandie, que le terme permaculture est rentré officiellement dans le langage juridique.
Le couple à l'origine de cette petite révolution, c'est Constance Canivet et Jules Butaille. Ils habitent une yourte dans leur jardin-forêt et sont les premiers à avoir obtenu un permis de construire pour leur maison à Merville-Franceville sur une parcelle dédiée à la permaculture. Laura Bayoumi tire leur portrait dans un article à retrouver en intégralité sur Grand Format. Elle y raconte la bataille juridique qui a duré 3 ans avec les autorités locales jusqu'à cet arrêté préfectoral dérogatoire en mars 2021. On y trouve cette définition inédite dans un tel document de la permaculture, une méthode d'agriculture planifiée exploitant au mieux les caractéristiques des écosystèmes naturels.
Petite ligne qui traverse la campagne, souvent laissée à l'abandon. L'une d'elles va revivre, dès demain.
Remettre des trains sur le réseau sans forcément passer par Paris, c'est l'objectif de la coopérative ferroviaire Railcop. Elle a été créée suite à l'ouverture de la concurrence du transport ferroviaire et compte aujourd'hui plus de 12 000 sociétaires. Parmi ces projets, deux lignes Massy-Brest et Lille-Nantes qui passeront par la Manche à partir de 2024. Alors que le transport routier est responsable d'un tiers des émissions de CO2, les petits formats zooment sur deux alternatives développées en Normandie. Railcop donc, mais aussi le renforcement des transports en commun dans l'agglomération de Cherbourg, explique Léo Ménil. Le réseau Cap-Cotentin veut devenir plus accessible et étendu avec l'augmentation des fréquences des lignes, un tarif unique ou encore le développement d'un service de transport à la demande.
La bataille pour le climat, elle doit toujours concilier des usages.
Une déclaration signée du candidat Emmanuel Macron mi-avril, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Il était alors en déplacement au Havre sur le thème des énergies renouvelables et des éoliennes. Jamais on ne déploiera des éoliennes en mer sans concertation avec les scientifiques, les pêcheurs et ceux qui partagent la mer, a-t-il affirmé à cette occasion. Celui qui a depuis été réélu président de la République avait inscrit dans son programme le souhait de déployer 50 parcs éolien en mer dans toute la France d'ici 2050.
C'est l'histoire des Landes des seigneurs de Roanne que des bureaucrates ont un jour, d'un trait de stylo, voulu faire disparaître. L'histoire d'une résistance de plus de 50 ans qui jamais ne s'est éteinte.
Un documentaire radiophonique pour raconter Notre-Dame-des-Landes de 1967 à aujourd'hui. Sur 1600 hectares, une zone d'aménagement différée en vue de la construction d'un aéroport est devenue une zone à défendre. Trois documentaristes cannais, dont Marie-Hélène Carr et Jean-Baptiste Julien de Grand Format, se sont lancés dans ce projet l'été dernier, à l'occasion d'Utopie Sonore, une résidence qui réunit tous les ans pendant 3 jours les amoureux de création sonore. Une émission écrite en 3 jours et enregistrée en public et en direct de la Maison Rose implantée sur la ZAD. Le podcast est à écouter sur le site de Radio Parleur.
Mais Léo, qu'est-ce que tu fais assis devant le frigo ?
À la cantine, on m'a dit qu'il fallait privilégier les circuits de proximité.
Manger bio et local à la cantine, tout en restant dans des tarifs accessibles à tous. Le pari n'est pas évident sur le papier, mais pourtant de plus en plus d'établissements scolaires relèvent le défi. Simon Gouin et Emmanuel Blivet sont allés visiter l'une de ces cantines dans un petit village du Calvados. Une histoire à découvrir très prochainement sur Grand Format. Vous pouvez également vous plonger dans le quatrième et dernier épisode de la série Tatouage. L'écrivaine Shan Haddad continue d'y dresser le portrait intime et engagé de mouches qui accompagnent des personnes en liberté conditionnelle. Retrouvez l'ensemble de ces contenus et bien d'autres dans l'édition de mai de la newsletter Petit Format, une lettre d'information mensuelle et gratuite éditée par le magazine en ligne normand Grand Format. Pour s'abonner, lire et relire tous les articles, rendez-vous sur grand-format.net. Bonne lecture.
Pascal, on vient d'entendre Manu. Alors, est-ce que c'est réalisable ces 50 parcs en France?
En combien de temps?
En combien de temps, ouais.
Alors déjà, faut la place. Et la mer, c'est pas qu'un terrain éolien. Il y a déjà du monde qui travaille sur place. Il y a déjà beaucoup de trafic maritime qui est assez bruyant. Il y a beaucoup de pêcheurs. Et il y a des extractions de granulats en Manche aussi, beaucoup. Comment faire cohabiter toutes ces activités sans qu'il y ait de gens lésés ou que tout le monde soit lésé de la même façon et que ça profite à tout le monde. Là, je pense qu'il faut bien 50 ans pour arriver à, au moins 50 ans pour 50 parcs. C'est un minimum, je pense.
Ouais. C'est certainement un visionnaire, cet Emmanuel.
J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette théorie, je sais pas.
Ok, merci. Justement, on reviendra avec toi juste après la chronique de David sur l'impact humain que ça peut apporter, tous ces chantiers. Mais justement, notre cher ami David a encore bien travaillé. Il nous prépare une rubrique humoristique. Il se marre déjà avant de commencer, ça promet. Et avec une petite nouveauté, il a un jingle. C'est incroyable. Donc, on va se délecter de ce jingle avant que tu démarres cette rubrique.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
L'histoire de l'histoire avec David, entrez dans l'histoire dans Bonjour Turbine. Alors bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui la grande histoire a tendance certainement de temps en temps à oublier les petites gens. Alors laissez-moi vous conter la tragédie de Monique Serin. Monique Serin a 43 ans. Elle est mère de trois filles, Joyce, Alexiane et Alizée. Elle habite près de Marseille et tous les matins, Monique étend le linge de ses gamines avec un soin de blanchisseuse royale. Ce matin-là, la tramontane était de la partie et ce qui devait arriver arriva. La culotte d'Alizée fut emportée par le vent. On la vit s'envoler comme un petit cerf-volant blanc dans le ciel bleu. Un grand malheur, car cette culotte reine des neiges était le vêtement fétiche de sa fille, qui ne pouvait vivre sans elle. Le sang de Monique ne fit qu'un tour. Elle descendit 4 à 4 les 5 étages de l'immeuble et s'empara de la première voiture venue qui n'était autre que celle de son voisin de palier, Nestor. Elle introduisit son épingle nourrice dans la fente de la clé et démarra en trombe. Après avoir grillé 3 feux rouges et renversé 2 poubelles, elle arriva à l'aérodrome de Cassis. Là, elle prit d'assaut un petit avion de tourisme et s'engouffra dans le poste de pilotage. Dans sa précipitation, Monique avait omis qu'elle ne savait pas piloter. Du coup, elle se cracha dans le champ d'Olivier. Et oui, ce champ appartenait à un certain Olivier. Cela peut paraître inouï, incroyable, mais pourtant c'est vrai. Olivier était un vieux barbu, un peu noueux, comme le sont tous les Oliviers. Il lui révéla que sa culotte volait bien, volait à tire-d'aile vers la Méditerranée. Elle remercia l'homme, piqua un sprint et chuta dans un champ d'oliviers, qui pour le coup, celui-ci était bien réel. Cette mère courage croisa ensuite un jeune couple en train de batifoler dans la lavande et de serpoler comme le font les petits lapins dans la garrigue quand le vent leur donne des idées. Elle ne put s'empêcher de jeter un petit coup d'œil furtif à la culotte de la demoiselle, mais pas de reine des neiges sur la culotte. Les amoureux outrés lui lancèrent des invectives qu'on entendit depuis la Canebière jusqu'au château d'If en passant par les Baléares. Enfin, ceci d'après les Marseillais. Piteuse Monique, qui d'habitude était si pieuse et si pudique, s'en alla baissant la tête. Honteuse comme renard qu'une poule aurait pris. Arrivée en rade de Marseille, elle chercha une embarcation. Un marin sur le vieux port lui proposa. « J'ai un superbe rafio, tout confort, il s'appelle Titanic. »« Titanic ? Melik, ça rime. J'embarque. » Et le bateau coula.
Bravo, 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 bravo. Bravo David. Et on remarquera que tu as un super accent du sud.
Je suis né au nord de Marseille.
Ah, c'est pour ça. Ok, on comprend mieux, on comprend mieux. Il nous reste 3 minutes. On va profiter de la présence de Pascal pour peut-être terminer sur le sujet. On a parlé de l'impact sur la biodiversité en termes de humains, sur le commerce par exemple, notamment sur les pêcheurs ou les plaisanciers peut-être. Qu'est-ce que ça va changer tout ça?
C'est la grosse question, ouais, qui était citée par Emmanuel Macron tout à l'heure dans le très joli dialogue, discours que vous avez passé. Les pêcheurs sont les premiers impactés en termes humains, donc sont les plus virulents à certains moments, mais en tout cas les plus demandeurs d'études et les plus carrés. Donc humainement, oui, on réduit les zones de pêche, la réglementation change, on parlait de changement climatique, le prix du carburant monte. C'est un métier qui est très lié à une ressource naturelle qui s'épuise aussi, à part pour la coquille Saint-Jacques qui se porte très bien grâce à leur gestion, il faut aussi le souligner. Donc c'est un milieu encore une fois complexe en termes d'activité aussi et incertain pour l'avenir. Donc c'est encore une fois une question de partage du milieu. La Manche, c'est aussi une zone qui est très exploitée pour l'extraction de granulats. Il y a beaucoup de concessions très grandes pour tirer du sable, pour principalement le bâtiment. Maintenant, bon, il y a aussi beaucoup de trafic qui est très bruyant, donc qui limite aussi, qui crée déjà une pollution sonore, si on la considère. Donc l'ensemble du milieu est déjà très exploité, très, très actif, et on rajoute les éoliennes par-dessus qui compliquent. Quand on autorise la pêche dedans, bah, ça change aussi les modes de communication par radio, ça change les assurances, ça change beaucoup de choses. Donc ça simplifie rien, ça rajoute des couches de complexification à un milieu qui est déjà difficile à pratiquer. Donc oui, on a beaucoup à faire avec les pêcheurs et à juste titre sur le sujet.
Ça doit être très sympa, les débats, les échanges. Oui, David, tu voulais intervenir?
Non, mais moi, du coup, par rapport à tout ce que tu dis, on a l'impression quand même qu'on est sur un équilibre très précaire. Du coup, ça peut peut-être y avoir des catastrophes naturelles ou en tout cas environnementales assez rapidement. Je sais pas, enfin, moi, c'est intégré
à la notion d'écosystème. Quand on modifie une partie de ce système-là, toutes les autres sont impactées plus ou moins fortement. Et dans cet écosystème, il y a des activités humaines aussi. Donc effectivement, c'est ça. De là, parler de catastrophe, je pense que la catastrophe, elle est plus associée au changement climatique aujourd'hui, à l'élévation du niveau de la mer. Voilà. Après, si on veut tenir les objectifs de réduction du nucléaire et l'énergie sale d'ici 2050, faire sans les éoliennes, c'est compliqué. Donc comment faire avec tout en ménageant toutes les activités autour? C'est une équation qui est posée au service de l'État et qui est posée à tous les citoyens aussi vivant autour de la mer. Et en Normandie, on est quand même pas mal concernés. Ouais.
Bah, je trouve que c'est une très belle fin, même une ouverture, ce qui implique peut-être que tu reviennes pour nous parler aussi de l'évolution du chantier. Et de toute façon, on reparlera du sujet. Donc un grand merci Pascal Akbar pour ta présence, c'était hyper intéressant pour nous, très riche. Merci Alain d'avoir bien potassé le sujet. Merci à toi David de nous avoir encore fait sourire. Merci Alicia d'avoir géré au pied levé la technique. Merci
Mais
beaucoup.
Pas de problème, enfin.
C'était incroyable. Merci à Pierre qui, malgré sa maladie, a pu réaliser une chronique. Et merci à Raphaël. Et merci à vous tous. Et on se dit à dans 2 semaines.
Et merci Thomas, bien
Salut
sûr.
Salut Thomas, merci.
Allez,
à bientôt.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.